Vous écoutez
RMC. RMC, le bras de fer GG.
On n'a rien fait depuis 5 ans. Rien. Il y a toujours une bonne raison pour ne rien faire. Alors mettre la responsabilité de tout ça sur le dos des coureurs, c'est lamentable. C'est lamentable. Le coureur, il est là pour être compétitif, il est là pour être opérationnel. C'est à nous de le protéger. À nous, l'ensemble du cyclisme, de protéger nos coureurs. On devrait tous faire quelque chose. Moi, le premier, je devrais accepter de ne plus avoir moyen de communication directe avec mes coureurs. Tout est une question d'intérêt. On est tous responsables.
On est tous responsables, hein, les coureurs victimes d'un système, victimes de la pression de leur patron d'écurie, on l'a entendu, victimes de la course à l'armement des fabricants de vélos, mais aussi de l'inaction de l'UCI. Autant de raisons qui expliquent, c'est vrai, en partie l'incroyable chute lors du tour du Pays Basque. Mais les coureurs sont aussi maîtres de leur destin, de leur sport, de leur corps, de leur santé. C'est pour ça que j'ai envie de vous poser cette question, les GG. Est-ce que c'est aux coureurs de dire stop? Est-ce qu'ils doivent prendre leur destin en main? Pourquoi pas faire grève? Allons jusqu'au bout de la logique, même si là on réagirait peut-être sur l'émotion, c'est ce que tu disais Marie, mais est-ce qu'ils doivent dire stop? Toi tu penses que oui, Jérôme?
Ah oui, moi je pense que oui.
Pourquoi?
Oui, parce que c'est les discours de façade, des grands coups de gueule, ok d'accord, mais les coureurs doivent s'apercevoir d'une chose, c'est que ce sont eux les acteurs, et à un moment donné il va falloir qu'ils s'entendent et qu'ils arrêtent d'agir comme des robots, qu'on demande d'aller de plus en plus vite, de plus en plus fort, de plus en plus loin. Il faut qu'ils prennent la parole aussi, il faut qu'ils se rendent compte de la différence. On parle de la vitesse excessive. Moi je vois aussi des coureurs qui vont beaucoup plus vite que d'autres. Ça me pose un problème. Est-ce qu'on évite le problème ou est-ce qu'on en parle enfin? Les coureurs sont lancés à vive allure sur des pavés. Est-ce que c'est pas à Mathieu Van Der Poel, plutôt que de faire un tweet en dire c'est une blague, de dire moi champion du monde, demain j'irai pas dans cette tranchée? Ce sont eux les acteurs. Si ça vient pas d'eux, de qui ça va venir? Des gens qui les payent. Les gens qui les payent sont payés par des sponsors qui font la plupart des vélos, qui veulent aller de plus en plus vite parce qu'ils veulent en vendre dans des millions dans le monde entier. Donc si le coureur ne prend pas ses responsabilités, si le coureur se dit pas une bonne fois pour toutes, les gars, on se met autour de la table, mais ça n'arrivera jamais, hein, je te le dis tout de suite,
Il faudrait pourtant.
Mais ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que le statut de coureur cycliste, et on en parlait hier tous les deux, je sais, est un statut précaire. On signe des contrats très courts. Si t'es bon, ça dure. Si t'es pas bon, t'es viré. Et le lendemain, t'es paysagiste. C'est ça, la vie d'un coureur cycliste. Donc, évidemment qu'ils doivent s'entendre. Évidemment qu'ils doivent prendre des décisions. Mais s'ils élèvent trop la voix, les organisateurs vont dire, ferme-la ou on t'invite plus à la prochaine course. Le patron va dire, la com, nous c'est lisse, donc tu la fermes. Voilà le problème.
Donc ce serait plutôt au grand champion de prendre la parole.
Mais évidemment, pas sur les réseaux
les
sociaux.
Les Vanderpool, les Van Aert, les Pogacar.
Adam Hansen, que je respecte beaucoup, représentant des coureurs au CPA. Demande à Tom Pidcock qui c'est Adam Hansen. Demande à Mathieu Van. Il en a rien à foutre, il sait pas qui c'est. C'est aux acteurs, c'est pas aux anciens de prendre les décisions. C'est aux acteurs eux-mêmes. Si ces acteurs-là parlent pour tout le monde, le problème c'est, est-ce que Mathieu Van Der Poel représente Valentin Madouas, peut-être, j'en sais rien. Mais est-ce qu'il représente un coureur qui est à Roubaix ou qui est à Lucé Nantes? Parce qu'aujourd'hui, il y a ça aussi. On parle d'un peloton. Non, parce que les grands, un mec comme Mathieu Van Der Poel, avant de venir et dire, ouais, Canyon, pardon de citer la marque, c'est pas la mienne, il me paye. C'est Canyon qui paye Mathieu Van Der Poel. Donc tu penses bien qu'il va pas aller dire, faut faire des vélos qui vont moins vite. Sinon, on va lui dire, mec, ok. Ouais. Mais ton salaire, t'oublies.
Le problème, c'est que personne n'a les mêmes intérêts. Les intérêts sont divergents sur. Il y a des intérêts convergents sur certains trucs, mais la majorité, c'est des intérêts divergents. Et les gros, ils n'ont pas besoin d'être représentés, effectivement. Et c'est eux qui devraient prendre la parole, parce que les gros, justement, représentent les autres. Ils n'ont pas besoin d'avoir un syndicat, eux. Eux, ils sont forts d'eux-mêmes. Eux, s'ils disent c'est comme ça, parce que c'est des gros et on va les écouter. Sauf que la majorité, on les écoute
le
pas.
Le milieu du vélo, je le connais par cœur. Ça fait 15 ans que j'y suis. Les grands vont dire des choses, même si les petits se mettent ensemble et montent au
créneau. Mais ils n'auront jamais le même poids.
Mais ils n'auront jamais la parole.
Évidemment, c'est pour ça qu'il faut que les gros soient
défendre les petits.
Dans
ce sport, on ne laisse la place qu'aux grands. Tout à l'heure, Marie a dit quelque chose de très intéressant. Il y a eu des grands coureurs qui ont chuté. Est-ce que c'est la même réaction? Est-ce qu'on fait la même émission? Est-ce qu'on fait les mêmes interviews si c'est trois pimpins d'une équipe secondaire?
Évidemment que non.
Voilà le problème.
Sous les radars.
Aujourd'hui, ils sont 176 à y aller. Les grands champions, ils vont être protégés par leurs équipiers. C'est rarement eux qui tombent. Ils peuvent tomber, ok, sur Paris-Roubaix. Mais c'est pas eux qui représentent le vélo. Fred, ça fait 15 ans que je suis dans le vélo. Ça fait 10 ans que c'est du cyclisme moderne. Ça fait 8 ans que j'entends quand on monte dans le bus. Ah, mais c'est pas normal. Il y en a, ils vont trop vite. T'as déjà entendu un coureur prendre la parole et dire, mais là, stop, ça suffit.
Mais même si on se fait enfler,
pourvu que ça dure, tant pis, c'est pas grave, on gagnera pas, mais c'est pas grave, on va continuer à vivre de notre
sport. Oui, mais c'est là que t'es plus fort à plusieurs que tout seul.
Mais les petits, 100 petits ensemble seront jamais aussi forts que 5 champions.
Comment les grands vont être des champions? Non, comment les grands vont être des champions s'il n'y a pas de petits à côté?
Mais il n'y a pas de solidarité entre.
Oui, mais il faut justement.
Mais il faut. Fred, Fred,
les petits qui tombent, effectivement, on n'en parlera jamais parce que c'est des petits, parce que ça n'intéresse personne.
2003.
Sauf que sans petits, bah peut-être que ça vaut un grand.
2003, Frédéric.
Ouais, mais ils auront
2003,
jamais les micros.
Championnat de France à Plumelec. Et André Kivilev est mort à Paris-Nice en mars. Il y a une loi qui tombe, port du casque obligatoire. On est tous des débiles, puisqu'à l'époque, on fait grève contre le port du casque. Ce qui est inimaginable aujourd'hui. Mais on est débiles, mais on prend une décision. On prend une décision, Fred. En France, seulement en France. Je ne te parle même pas du peloton international. 126 coureurs professionnels en France. Hein. On peut se parler quand même à 126.
Normalement, oui.
On est un syndicat. On prend une décision, on fait un tour neutralisé.
Pour protester contre le port du casque.
Dans le premier tour, il y a des coureurs qui restent 6 mois de contrat, qui disent, moi les gars, moi j'attaque, parce que moi, le championnat de France, c'est télévisé, il faut qu'on me voit. Comment tu veux qu'on y arrive? Et 10 ans après, on est toujours là.
Non, mais,
ce qui est complètement dingue, c'est que je vois pas comment les coureurs peuvent s'entendre si, en plus, la seule fois où il y a une solidarité, c'est pour prendre des décisions contre la sécurité. Regarde, ce que tu viens de dire est symptomatique. C'est-à-dire que la seule fois où ils ont eu vraiment une mesure, c'est quand ils ont dit, on veut pas du casque, alors que ça assurait la sécurité. Depuis, ça a sans doute sauvé des vies. Aujourd'hui, je pense pas que c'est aux coureurs, parce que je n'y crois pas à la solidarité au sein du peloton. Je pense que c'est aux instances internationales.
Mais non, de rassembler, d'essayer de
faire une table ronde avec les organisateurs de course, avec les représentants des coureurs, avec des champions, essayer de tous parler, de tout mettre les sujets sur la table et d'essayer de faire avancer les choses. Un truc qui s'est très démédiatisé, donc qui ne pourrait pas mettre cacher les choses.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui font le plus, ce sont les organisateurs. Ils réfléchissent à des solutions. Mais c'est aux coureurs et aux acteurs,
okay,
avec leur patron.
Oui, mais tu viens de nous expliquer. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Jérôme, mais tu viens de nous expliquer à quel point ils sont dans une situation qui leur permet pas vraiment de se rassembler et de prendre la parole. Pour le coup, les organisateurs pourraient, à même avec l'UCI, créer un cadre propice à la prise de parole des athlètes en les protégeant. Ça serait ça l'idéal, je pense. Mais bon, c'est pas autour de cette table aujourd'hui qu'on va trouver la solution parfaite.
Comment tu protèges des gens qui sont en fin de contrat?
Non, mais moi, l'amateurisme dans lequel se retrouvent ces cyclistes quand tu vois qu'on a une pauvre demande une semaine avant la compète de dire ah, il faut faire quelque chose. C'est que rien n'est structuré, rien n'est organisé et que oui, il va falloir qu'ils dénombrilisent un petit peu, qu'ils se regardent les uns les autres, qu'ils arrivent à se parler et s'entendre.
Tu parlais tout de suite de cette réaction de la chicane. C'est un peu à l'image du comportement du syndicat des coureurs.
C'est ça. C'est
une semaine avant, vous faites
une action, une réaction.
Voilà, c'est, vous êtes petit, vous savez pas faire, vous nous faites une demande à l'arrache au dernier. Bon, on va faire un truc à l'arrache. Soyez sérieux, messieurs. Sauf que peut-être que je me contredis, mais je sais de toute façon qu'ils sont incapables de s'entendre. Déjà, les patrons d'équipe en France, s'il y en a un qui prend une décision, l'autre va lui mettre la carotte pour dire on les a niqués. Donc c'est, déjà, c'est compliqué. Et en plus, les coureurs entre eux sont incapables de prendre la même mission parce qu'ils ne sont pas du tout sur le même pied d'égalité au départ d'une course.
Il n'y a pas un coureur aujourd'hui qui pourrait rassembler? Il n'y a pas un nom
Fini, ça, c'est fini.
C'est fini? Ça n'existe. Non, mais par exemple, à l'époque de
Bernard
Hinault.
Bernard Hinault, on lui demandera.
Qui sera notre invité à 11h40.
Était le leader, justement. Il y a eu une grève sur le Tour de France dans les années 70. Bernard, qui était le patron, qui était le vrai patron du Tour, et celui qui avait lancé le mouvement. Aujourd'hui, t'as plus vraiment ça. Et aujourd'hui, et à l'époque, tout le monde suivait ce que disait Bernard Hinault. Aujourd'hui.
Et il y a tellement aujourd'hui, en plus, au sein du peloton, d'amertume, de frustration de la part d'une certaine caste de coureurs par rapport à d'autres, que dès lors qu'il va y avoir une forte décision, ils vont être contre, mais ils le diront pas.
Ouais, elle fera peut-être pas consensus, mais
moi je te dis un truc, j'ai fait partie d'une génération, et c'est la continuité de la mienne aujourd'hui, qui se faisait enfler par un coureur et qui était pris au dopage et qui revenait 2 ans après avoir purgé. Et tout le monde lui claquait la bise, tu vois. Alors qu'il avait enflé tout le monde pendant 5 ans. Le résultat aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Hein. Sur toutes les décisions, c'est pareil. Le comportement du coureur cycliste n'a pas changé. C'est, vas-y, enfle-nous, c'est pas grave. Parce que le problème majeur, c'est les chutes, c'est la vitesse. On en parle de la vitesse, on parle du matériel. Mais est-ce qu'il n'y a que le matériel? T'en es sûr, toi? Moi, j'en suis pas sûr. Mais il n'y a pas un coureur qui va dire, oh, les gars, là, ça va trop vite dans les bosses. Quand j'arrive en haut, bah, je vois plus les 10 premiers kilomètres de la descente, il faut que je récupère. Personne va le dire ça. Personne.
Ok, parce que sinon il n'y aura pas d'autres contrats.
Bah, parce que sinon il est grillé.
Oui, mais vu que justement t'expliques qu'il n'y a pas de solidarité, pourquoi c'est pas les organisateurs qui prennent les
devants? Ils font le maximum pour moi, l'organisateur. Là, il a atteint son maximum. Il fait une chicane à l'entrée d'Anvers. C'est mythique. Il a qu'à faire un pont en bois.
Tu sais que c'est pas le maximum parce qu'ils s'y prennent une semaine avant parce qu'ils ont cette demande.
Mais parce qu'il a demandé.
Pourquoi ils ont un an? Ils ont eu un an entre les deux. Pourquoi entre les deux ils ne réfléchissent pas à améliorer ça?
Tu sais ce que c'est la vraie action alors? La vraie action d'un cyclisme solidaire, eh ben tu freines, tu sors du secteur pavé avant à Rambert et tu dis les gars maintenant on se met d'accord avant une semaine, 10 jours, on fait une réunion, les gars on a décidé qu'on allait boycotter à Rambert, c'est trop dangereux. Tu peux pas faire ça, c'est toi qui fais la course, tu peux passer à 40 à l'heure dans Rambert au lieu de passer à 60.
Mettre ça pied va à rien terre, changer. C'est le sens de la question.
Pied à terre ou ralentir en disant tant que vous n'avez pas pris des solutions, mais pas un mail 15 jours avant, et cette putain de chicane, s'ils en ont tous peur, ils vont tout droit, les mecs, ils n'apprennent pas la chicane.
Tu l'expliques toi-même. En fait, dans ton discours, il y a deux choses. Tu expliques d'un côté qu'il faudrait qu'ils se mettent tous d'accord, mais en même temps, tu expliques que c'est impossible qu'ils se mettent d'accord. Donc, ils ne peuvent pas se mettre d'accord.
La question, c'est doivent-ils dire stop? Oui, est-ce qu'ils vont le dire? Non.
Potentiellement, ils devraient, mais ils ne vont jamais le faire. Donc, ça ne sert à rien. Donc, c'est aux organisateurs de prendre les devants, justement.
Et là, ils ont fait une chicane.
Non, ils n'ont pas pris devant une semaine avant quand tu as demandé.
Parce que les coureurs ont demandé une semaine avant. Oui, un coureur qui représente 5 mecs.
C'est exactement ce que je viens d'expliquer. C'est à coureur. Eux de faire avant que leur femme.
Va voir, c'est le responsable du syndicat des coureurs au CPA qui a parlé pour eux. Demande aux coureurs qui passent derrière toi là. T'as le numéro d'Adam Hansen dans ton téléphone. 90% des coureurs, ils l'ont même pas, ils savent même pas qui c'est.
Et donc, si tu sais ça, si tu parles de ce postulat-là, pourquoi directement eux ne gèrent pas ça? Il l'a dit, Thierry, il l'a
expliqué. C'est leur sécurité.
L'année dernière, on a eu des problèmes, on n'était pas contents, on était tristes parce qu'il y a eu des problèmes de crevaison, etc. Mais pourquoi, si tu le sais, t'as un an pour le préparer. N'attends pas justement qu'on te fasse la demande. Ok.
Bon, en tout cas. Oui, mais enfin, c'est pas la tranchée d'Arambert qui pose le plus de problèmes dans le cyclisme international. C'est pas là où t'as eu les plus grandes chutes et les plus dramatiques.
Je parle pas de ce qu'un peu
de. C'est ce que disait Gouvenou tout à l'heure. Tu ne peux pas sécuriser l'ensemble des routes.
Évidemment.
Ce que disait Christian Prudhomme, c'est que les plus graves chutes, elles se produisaient dans des endroits qui apparaissaient pas les plus dangereux. Dans Arambert, évidemment, tu rentres très fort, tu peux te faire mal, mais c'est pas l'endroit qui a causé le plus de problèmes dans l'histoire du cyclisme. Je veux dire. Donc, à ce moment-là, tu limites partout. Tu mets des chicanes dans tous les coins de France et de Navarre à chaque course. Tu peux pas faire ça. Bon.